rendez-vous du Petit Pigeon Voyageur sur RCN, Jean-Marc Armand.
Eh bien, bonjour à tous, bonjour aux auditeurs de Petit Pigeon Voyageur, des rendez-vous du Petit Pigeon Voyageur, sixième émission. Nous sommes le 22 mai et nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Fiorletta, directeur de Sofrolor. Alors, Sofrolor, il va nous expliquer ce que ça veut dire, ce que c'est et où ça se trouve. Et merci d'être venu, entre parenthèses, hein, quand même.
Je vous remercie, Jean-Marc. Eh bien, Sofrolor, qu'est-ce que c'est que Sofrolor ? Sofrolor, c'est avant tout une association, loi 1901, gérée par un conseil d'administration, qui a pour vocation de développer, d'informer sur la sophrologie caïcédienne en Lorraine. Donc, pour le développement, nous avons une école qui va avoir 30 ans cette année, une école de formation de sophrologues, formation en 15 mois, un week-end par mois, et puis un centre d'application. Et ça, c'est un petit peu développé depuis 5 ans, notamment avec la conférence des financeurs de Meurthe-et-Moselle, c'est-à-dire le conseil départemental, qui nous permet de donner des séances aux seniors.
Quelle est l'origine de l'adjectif caïcédien ?
Caïcédien, ça vient tout simplement du nom du professeur Alfonso Caicedo, créateur de la sophrologie. Il a créé ce mot-là en 1960.
Un espagnol, non ?
C'est un espagnol d'origine colombienne qui a fait ses études à Madrid.
Et donc, il a créé une méthode, il a créé une école lui-même
Je dirais une discipline, oui, une méthode, une discipline. La sophrologie, donc ça vient des formants grecs, sos, phrène et logos, qui veulent dire équilibre, conscience et l'étude. Hein, le logos, c'est l'étude. Donc l'étude de la conscience en équilibre. Donc sa création est due au fait qu'il était psychiatre, neurologue, et qu'à l'époque où il faisait ses études, les traitements en psychiatrie étaient essentiellement des comas insuliniques ou alors des électrochocs. Et il s'interrogeait, mais pourquoi veut-on secouer la conscience alors que je n'ai aucun cours, nous n'avons pas de connaissance sur la conscience elle-même. Donc il s'est dit, il faut que j'invente une discipline qui étudie la conscience.
C'était en quelle année ça alors ?
1960, il était interne, il devait avoir 28 ans.
Ah oui. Donc c'est pas finalement si vieux que ça.
Ah c'est pas si vieux que ça, le professeur Caicedo est décédé en 2017.
Ah oui.
Donc voilà, et il a terminé sa méthode, son élaboration vers 2005.
Est-ce qu'il y a d'autres écoles, d'autres parallèles je dirais peut-être, avec la sophrologie caïcédienne ?
Ah bah oui, il y a toutes sortes de sophrologies, puisque la sophrologie est un mot qui n'est pas protégé on va dire. C'est la première définition qui avait été donnée par le professeur. Il a rajouté caïcédien après pour bien définir sa méthode et il a déposé sa méthodologie à l'INPI. L'INSERM a fait une étude sur l'évaluation de l'efficacité, de la sécurité, de l'utilisation de la sophrologie en France. Et cette étude est sortie en 2020. Et le rapport donne deux types de sophrologie, principalement une sophrologie généraliste qui utilise, on va dire, les principes et fondements qui avaient été élaborés avant 1995. Et puis la sophrologie caïcédienne, avec tous les principes et fondements enfin, qui ont évolué, en fait, qui se sont nourris d'extension, de continuation du développement de la méthode, après 95.
Est-ce que la sophrologie a une place dans la médecine ?
Elle a une place, alors là c'est un sujet, elle a sa place. En fait, à mon sens, c'est surtout une compétence supplémentaire, particulièrement dans la relation d'aide. Et cette compétence peut être mise en jeu dans différents métiers. Par exemple, l'enseignement. Il y a des professeurs, notamment à Nice, au lycée des Palmiers de Nice. Ça a été un projet d'établissement où ça a été utilisé par rapport aux classes qui étaient en échec scolaire pour leur permettre de connaître leurs capacités, leurs valeurs et leurs compétences et ainsi pouvoir être plus à même d'avoir leur diplôme. C'était le baccalauréat, c'était les bacs techniques. Après, dans le domaine de la santé, c'est utilisé au CHU de Nancy, particulièrement à la maternité, dans le service d'anesthésie. C'est une méthode qui est utilisée notamment pour la douleur chronique ou pour la prise en charge des, des soins qui peuvent être un peu douloureux. Donc pour un accompagnement avec, ça peut être utilisé aussi dans le domaine social. En fait, il y a plein d'applications de la sophrologie, c'est assez transversal. Voilà. Alors oui, la sophrologie devient thérapeutique si elle est prise, elle est utilisée par un professionnel de santé ou un professionnel paramédical.
Alors il y a deux catégories à ce moment-là de personnel qui utilisent la sophrologie. Il peut y avoir le corps médical. Et il peut y avoir des
enseignants
comme moi,
il peut y
comme
avoir, tout à fait.
À condition d'être formé, bien sûr.
Voilà. Voilà, tout à fait. Il faut être formé, et là, c'est plutôt du domaine de la prévention de la santé, bien évidemment, et auquel cas, c'est possible pour un sophrologue de la prévention de pratiquer.
On n'appelle pas ça une médecine parallèle.
Alors, encore un autre débat. Alors aujourd'hui, nous parlons plus d'intervention non médicamenteuse. C'est-à-dire la Haute Autorité de Santé a défini ces interventions comme telles.
Oui, donc on peut être suivi par exemple par un psychiatre, par un psychologue, par un infirmier psychiatrique, et en même temps, pourquoi pas, pratiquer des séances de sophro avec tel ou tel spécialiste, on peut dire.
Tout à fait. Et ça n'est pas, ça va être un prolongement, puisque c'est avant tout préventif.
Quels sont les mots M-A-U-X, qui intéressent la sophrologie?
Bah les mots, là, en sophrologie, le sophrologue ne fait pas de diagnostic. Hein, il laisse ça aux personnes compétentes. Par contre, il y a une amélioration, comme c'est un entraînement, on va dire, il faut quand même d'abord définir un petit peu ce que c'est. C'est une discipline qui aide chacun à développer une conscience sereine au moyen d'un entraînement. Un entraînement personnel basé sur des techniques de relaxation et d'activation du corps et de l'esprit. C'est-à-dire qu'on va faire des gestes simples, on va travailler la respiration, un peu comme toutes les techniques, soit de méditation, soit de relaxation. Et avec cet outil-là, on va pouvoir améliorer l'équilibre interne de la personne. Donc c'est sûr qu'il va y avoir des effets sur le sommeil, par exemple. On va améliorer la qualité du sommeil. C'est sûr qu'il va y avoir des possibilités pour gérer des choses qui nous gênent, comme les acouphènes, par exemple, ou gérer la douleur chronique, ou alors préparer une intervention chirurgicale, par exemple, aussi. Puisque moi-même, je suis masseur kinésithérapeute et je l'utilise dans ce cadre-là. Mais dire que c'est thérapeutique, oui, mais ça ne pose pas de diagnostic. C'est-à-dire que tout dépend de la personne qui utilise la méthode. C'est pour ça qu'il faut laisser la compétence du thérapeute au thérapeute et utiliser la sophrologie comme accompagnement.
D'accord. Alors l'origine, on l'a vu, donc le fameux psychiatre Caicedo.
Oui.
On a vu quel type, j'imagine que ça n'est pas exclusif, le type de mots sur lesquels peut intervenir la sophrologie. Alors maintenant, comment? Deux questions, mais on ne la traitera pas dans la première partie de notre émission, on la traitera en deuxième partie. Mais comment devient-on sophrologue? Pourquoi finalement s'oriente-t-on pour devenir sophrologue? C'est encore une question. Et puis enfin, comment se pratique la sophrologie? Et là, vous pouvez déjà répondre à une partie des trois questions que j'ai posées, à savoir qu'est-ce qui fait qu'un individu devient sophrologue, qu'il a envie d'être sophrologue?
Alors, dans le contexte actuel, il y a eu beaucoup de changements. Il faut dire qu'avec la Covid, l'isolement, le fait d'avoir été confiné a permis à certaines personnes de se poser des questions sur la réalité de leur existence et sur les choix qu'ils font dans leurs activités. Et donc, il est certain que beaucoup de personnes cherchaient à changer de métier et à s'orienter vers toutes ces techniques aujourd'hui, des techniques dites de bien-être. Et donc, ça, c'est un premier élément qui fait qu'on s'oriente, les personnes s'intéressent à la sophrologie. L'autre élément, c'est le besoin d'aider, la relation d'aide. Et je crois que c'est un point commun un petit peu avec l'association du petit voyageur, c'est qu'il y a une motivation quand même de l'être humain à vouloir aider, à vouloir aider autrui. Et donc, ça, c'est une des deuxièmes motivations. Après, les professionnels qui sont déjà dans l'accompagnement, dont je disais les professionnels de santé, les professionnels de l'enseignement, de l'éducation, eux viennent chercher une compétence supplémentaire parce qu'ils s'aperçoivent que parfois il y a des écueils, parfois ils n'arrivent pas à faire face. notamment au niveau de la gestion du stress personnel. Je pense aux professionnels hospitaliers qui ont été soumis à rude épreuve pendant ces périodes sanitaires. Voilà, ils se disent ça peut-être être autrement, et donc ils cherchent une démarche aussi pour pouvoir s'aider eux-mêmes et puis aider les patients qu'ils ont en charge. Alors globalement, pourquoi on deviendrait sophrologue? Alors à Nancy, ça dure 15 mois, c'est un week-end par mois. Et puis, on finit par avoir un certificat d'études fondamentales en sophrologie caïcédienne qui est donné par la fille du professeur Caicedo. C'est un diplôme espagnol.
Ça n'est pas un diplôme d'État.
Ça n'est pas un diplôme d'État, non, pas du tout.
Mais c'est une reconnaissance de la fille du créateur.
Voilà.
Donc, c'est pas... C'est...
Voilà, parce que, en fait, toutes les écoles caïcédiennes partagent le même programme et ont élaboré ensemble un programme... avec tous les éléments que le professeur Caicedo voulait qu'il soit dispensé.
J'ai pensé, pour cette pause, à une musique qui va nous évoquer l'évolution dans la vie, etc. C'est Julie Zenati, dans sa chanson « La vie fait ce qu'elle veut ». C'est pas ce qu'elle peut.
Te dire les mots que tu espères, ces mots de velours qui vont te plaire, pour devenir celle que tu attends, j'ai mis du temps, j'ai mis du temps, pour revoir le monde un peu plus beau, prendre chaque jour comme un cadeau, pour trouver l'envie tout comme avant, j'ai mis du temps, j'ai mis du temps, et la vie fait tout ce qu'elle veut. Le gris, le bleu, le gris.
des rendez-vous du Petit Pigeon Voyageur sur RCN.
Beau morceau de musique qui évoque bien ce que la vie fait, ce qu'elle veut. Mais que faisons-nous, nous, que pouvons-nous au cours de la vie? Et là, je pense que la sophrologie doit pouvoir apporter, si ce n'est une réponse, une solution définitive, mais au moins un moyen, un chemin pour parvenir, à, peut-être pourquoi pas, au bonheur. Alors on est avec Patrick Fiorletta, kinésithérapeute, sophrologue, directeur de Sophrolore, qui nous a expliqué dans la première partie de l'émission l'origine de la sophrologie caïssaïenne. Et dans la seconde, bon, on va voir un peu comment se pratique la sophrologie, autant pour le sophrologue que pour les aidés ou les aidants qui intègrent des parcours de sophrologie, souvent sur plusieurs séances. Hein.
Oui, nous avons mis au point des ateliers, parce que nous nous sommes rendus compte que, en tout cas pour les activités en groupe, hein, il y a deux manières un petit peu de pratiquer la sophrologie. Ça se passe en général dans un endroit calme, il n'y a pas besoin de tenue particulière, avec deux chaises, si on peut tenir assis. Et le sophrologue guide avec sa voix, mène des séances, et puis pratique avec la personne ou les personnes, donc en individuel ou en groupe. Quand il s'agit de groupe, nous adaptons des ateliers au public. Nous avons plusieurs ateliers, un atelier développer son mieux-être avec la sophrologie caïssaïenne, qui fait 8 à 10 séances, dans lequel nous couvrons toutes les possibilités de gérer le stress personnel ou parfois professionnel. Nous avons des ateliers un peu plus courts sur 5 séances sur mieux-être et sommeil, c'est-à-dire qu'on va plutôt utiliser des techniques qui vont nous faciliter les capacités d'endormissement, de réendormissement ou de programmation d'un bon sommeil. Et puis ensuite, il y a aussi des ateliers pour les jeunes. On a des ateliers qu'on appelle Valeurs, études et sophrologie qui permettent souvent les jeunes du collège ou les adolescents en tout cas à prendre conscience de leurs compétences, de leurs capacités et les mobiliser le jour des examens. Voilà en gros les 3 types d'ateliers. Mais c'est toujours très structuré et très codifié la sophrologie.
Quand on fait partie d'un programme d'atelier comme ça, comment on appelle les personnes qui viennent? Ce sont pas des patients?
Ce sont des sophronisants. Alors c'est vrai que c'est pas très joli, mais ça s'appelle comme ça.
Sophronisant, voilà. C'est en cours de...
Voilà, ils sont en cours de sophronisation. Parce que la sophronisation, c'est tout simplement quelque chose qui avait été utilisé par le professeur Caicedo dès le début de sa pratique, c'est descendre son niveau de conscience. Voilà. Et le descendre, au début, c'était prévu de le descendre entre veille et sommeil. Et puis après, dans la méthodologie, il s'est aperçu que c'était un peu hypnotique, ce niveau de conscience entre veille et sommeil. Et donc, il a fait évoluer sa méthode vers une conscience claire et limpide et surtout volitionnelle. C'est-à-dire dans laquelle on peut faire les choses de manière volontaire, qu'elles soient suffisamment claires, avec du discernement. Et c'est un peu un des objectifs de la sophrologie, c'est d'avoir du discernement sur notre propre situation pour pouvoir gérer celle-ci.
Est-ce qu'on peut s'endormir pendant une séance de sophrologie?
C'est possible, mais pas pendant la période d'activation. Comme je le disais tout à l'heure, on peut activer ou relaxer la conscience, c'est-à-dire soit un peu, entre guillemets, l'exciter, soit lui permettre de redescendre, mais de façon volontaire.
Ça se pratique assis, debout, couché?
Assis, debout. Ben après, couché, si c'est pour préparer au sommeil, c'est quand même mieux couché.
Moins dangereux en cas de chute. Hein.
Oui, tout à fait. Mais en général, c'est assis ou debout. Hein. C'est une technique qui est faite pour le quotidien. En 5 minutes, 7 minutes, on peut faire une pratique. Et surtout, que ce soit en groupe ou en individuel, le sophrologue donne des enregistrements. Maintenant, nous avons les moyens techniques. Tout le monde a un téléphone portable. Peut faire un enregistrement et réécouter ces enregistrements dans les périodes qui lui semblent les plus calmes ou les plus adaptées dans son quotidien. La personne peut le faire.
Je fais une parenthèse parce que je vois Patrick qui a en main un petit flyer sophrologie et dessus je vois des photos de tournesol.
Ah.
Et ça me fait penser quand même au petit pigeon voyageur parce que de temps en temps en tant que président de cette association depuis maintenant un an, on essaie d'avoir des idées. Et l'idée du tournesol, c'est des petits sachets que le petit pigeon a fait emballer à Nantes. C'est-à-dire que les graines de tournesol de Lorraine sont parties à Nantes par la poste, ont été mises en sachet par une association d'insertion, sont revenues en avion et sont distribuées. On peut les acheter en allant sur le site du Petit Pigeon Voyageur. Et il y a un concours photo qui se greffe sur cette plantation de graines de tournesol. J'espère qu'on va avoir plein de tournesols en Lorraine. C'était une petite parenthèse, mais je rebondissais sur ce petit flyer qui a l'air très bien fait d'ailleurs.
C'est étonnant ce que vous êtes en train de dire, parce qu'en fait nous avons choisi le tournesol pour sa capacité à suivre le soleil et à suivre la lumière. La méthode de la sophrologie, elle est faite pour justement amener la lumière, que la conscience s'allume d'elle-même. Sur la situation de chaque individu et lui permettent de prendre les bonnes décisions.
Cette plante a un côté symbolique extrêmement fort chez les Ukrainiens. Mmh. Il y a même une pseudo-légende qui dit que les mamies ukrainiennes, lorsqu'elles croisent un soldat russe, s'amusent tranquillement à verser dans la poche du soldat des graines de tournesol et elles pensent dans leur tête que lorsque le soldat russe mourra, s'élèveront à sa place des fleurs de tournesol. C'est assez dur comme symbole,
oui.
Mais en même temps, ça dénote la profondeur de ce symbole en Ukraine et dans les pays de l'Est d'ailleurs.
Comme quoi, le symbole est une libre interprétation.
C'est une libre interprétation, absolument. Oui, oui. En fait, le symbole, il n'est que le support d'une réflexion. Je pense que c'est pour ça que Sophrolore a également choisi cette photo de tournesol, parce qu'elle évoque, et vous l'avez bien expliqué, le fait d'être constamment à la recherche de la lumière.
C'est cela, oui.
Alors l'âge, on a parlé des jeunes étudiants pour préparer des examens, mais j'imagine que la palette de l'âge est illimité. Est-ce qu'on peut travailler chez des très jeunes enfants?
Ah oui, mais là, ça va être un peu différent parce qu'on va procéder du jeu. On ne va pas demander de la réflexion. Le jeu va permettre de mettre en mouvement le corps. Et le principe fondamental de la sophrologie, c'est le corps, le schéma corporel comme réalité vécue, c'est-à-dire avoir conscience de son corps. C'est la porte d'entrée de la méthode. Et donc, au travers du jeu, on va appeler ça de la sophrologie ludique, qu'on peut utiliser aussi avec les adultes, parce que tout le monde est enfant toute son existence, va permettre de prendre conscience des limites du corps, de la respiration, de comment on fonctionne, comment on peut vivre les émotions aussi. Et donc, on peut amener de l'apaisement, faire tout un travail de concentration et de l'attention aussi, parce qu'aujourd'hui, les sophrologues qui travaillent avec les enfants disent que la problématique pour laquelle les parents leur envoient des jeunes, c'est la capacité d'attention qui diminue. Et avec cette technique, on peut améliorer petit à petit, avec un entraînement, je répète, la sophrologie c'est un entraînement de plusieurs séances, on va pouvoir améliorer certaines capacités comme celle-ci.
Comment vous expliquez cette baisse de conscience des très, très petits, quoi, hein? À quoi ce serait dû? À des facteurs extérieurs? À la télévision?
Je ne suis pas spécialiste, mais il semblerait que l'utilisation du numérique et puis le fait de zapper constamment, de passer d'une chose à l'autre à l'écran avec cette facilité redoutable, fait que après c'est difficile de rester sur le même sujet, sur le même objet d'attention pendant longtemps.
L'an dernier, le 23 novembre, le premier spectacle, on va dire, la première manifestation qu'a mise en place le Petit Pigeon Voyageur, nous avons eu aussi la conférence pendant ce concert qui était dédié au peuple ukrainien du professeur Cyril Tarquinio, qui est un psychologue, qui est professeur de psychologie à l'Université de Lorraine.
À Metz.
À Metz, tout à fait, et à Nancy. Et donc, il a bien expliqué ce que la psychologie pouvait apporter au niveau du stress post-traumatique. Et je pense que là aussi, la sophrologie devrait pouvoir s'inscrire en complément, en continuité du travail du psychologue.
Tout à fait, tout à fait. Vous avez bien dit le bon mot, en complément. Parce qu'en aucun cas, en sophrologie, nous travaillons sur les contenus de conscience. C'est-à-dire qu'on va permettre de donner les conditions optimales pour que la personne prenne conscience d'elle-même et de ses propres pensées, de ses propres affects et de son propre corps. Et donc, mais en aucun cas, évaluer, juger, jauger les contenus qu'elle peut vivre.
Et à l'opposé, alors, on a vu les très jeunes, les personnes très âgées, les personnes qui sont, par exemple, dépendantes, les personnes qui sont en situation de handicap, les personnes qui aident des personnes qui sont à aider. Je pense, par exemple, à des maladies comme la maladie d'Alzheimer, des choses comme ça, qui sont extrêmement éprouvantes pour l'aidant et qui fait souffrir pour l'aider dans ses rares moments de conscience. Est-ce que la sophrologie a également des ateliers sur ce plan-là ?
Ah ben, nous avons des ateliers, je vais en revenir, mais je vais quand même faire un rappel sur les objectifs de la sophrologie. C'est quand même d'aider à renforcer les attitudes et valeurs positives au quotidien. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser tous les jours. Et développer les capacités de gestion du stress et des émotions négatives. Et la maladie est porteuse de stress et d'émotions négatives. Et là, tout à fait... Je réponds tout à fait à cette question parce que depuis 2 ans, avec la conférence des financeurs, c'est-à-dire le département de Meurthe-et-Moselle qui finance, nous avons mis en place des ateliers avec l'Office d'hygiène sociale de Vendôme, la plateforme de répit, des ateliers aidants-aidés, c'est-à-dire que pratiquent ensemble, il y a 2 sophrologues qui prennent en charge et les aidants et les aidés. Pour partager un moment relativement positif plutôt que uniquement la maladie. Ça permet aux aidants de se reposer, de récupérer, en sachant que, effectivement, leur aidé n'est pas très loin et qu'il est en sécurité, parce que c'est très important pour un aidant. Et puis à l'aider de vivre des pratiques qui ne sont pas forcément les mêmes que celles qui sont données à l'aidant, mais qui sont des pratiques qui vont permettre de maintenir un niveau cognitif suffisant. Voilà. Alors bon, évidemment, ça s'adresse, tout dépend du niveau cognitif de la personne. Ça s'adresse à des personnes qui peuvent encore venir, qui peuvent encore écouter, qui sont encore disponibles.
Et alors, il y a eu des ateliers de fées en Meurthe-et-Moselle ?
Ah oui, ben, à Vendôme, on en a parlé. L'année dernière, il y a eu aussi à Vaudigny.
Que je connais bien, puisque j'en ai parlé avec Barbara dans la dernière émission, hein, puisque... C'est dans le Saint-Ois, il y a eu donc un atelier, effectivement, dans ce petit village de Vaudigny, qui est le siège social du Petit Pigeon Voyageur.
Tout à fait, mais il y a une équipe dynamique pour la prise en charge des seniors dans le Saint-Ois, et c'est Bien Vieillir dans le Saint-Ois, je crois qu'elle s'appelle l'association, et nous travaillons la plupart du temps avec les professionnels locaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, ben voilà, je fais une séance de sophrologie, venez tous, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous avons pour coutume... De négocier avec les mairies des salles qui sont mises à disposition parce que les mairies et les communautés de communes ont bien conscience qu'il y a des besoins et puis de travailler avec les structures CCAS, OHS, etc.
Je crois d'ailleurs qu'il y a un atelier là, qui démarre sur les mois de mai, juin, juillet, je crois, une dizaine de séances pour les aidants alors. Et ça D'accord. se passera, sauf erreur, à confirmer, à Saint-Firmin, à l'ESAT.
L'ESAT sur place. Bah, c'est
voilà.
Bien.
Voilà. L'EHPAD, je raconte des bêtises.
Ah bon.
À l'EHPAD de Saint-Firmin. D'accord. Une maison de retraite à Saint-Firmin. Il y en a une aussi, d'ailleurs, à Arouet. Et là, ça se passera à Saint-Firmin.
D'accord. Je m'en réjouis.
Mais, félicitations, je dirais, d'avoir mis en place ce type d'atelier, que ce soit celui de l'année dernière à Vaudigny ou celui-là à Saint-Firmin.
On couvre. Grâce à mes collaboratrices, nous arrivons à couvrir 4 territoires du département, les 4 territoires du Sud. Il me semble qu'il y a Terre de Lorraine,
il y a le Toulois.
À Lunéville aussi, on y est, et puis voilà.
Donc on va dire que la Meurthe-et-Moselle, est, grâce peut-être aussi à Sophrolore et à toute son équipe, et à tous les sophrologues qui sont passés déjà... en formation par la base de Sophrolore. Comment ça se pratique, cette école ? Comment elle fonctionne ?
Elle fonctionne bien.
est-ce que c'est le directeur qui manque de modestie qui nous dit que ça fonctionne bien ? Ou est-ce que, par contre, vous êtes vraiment enchanté d'abord d'être directeur de cette entreprise, et qui rayonne donc au-delà même de la Meurthe-et-Moselle.
Elle rayonne, oui, je suis allé à un congrès, je me suis rendu à un congrès sur les interventions non médicamenteuses à Montpellier au mois de mars, où j'ai présenté justement les ateliers de 10 séances, hein, les ateliers mieux-être, développer son mieux-être avec la sophrologie caïssédienne. Et puis, nous avons pu évaluer ces ateliers et montrer qu'ils amélioraient pour beaucoup la qualité de vie. Je pense qu'on peut parler de qualité de vie, parce que si on se sent bien, c'est qu'on est en bonne santé, et il y a vraiment une amélioration, et à deux niveaux, à la sortie de ces ateliers de 10 séances, et quand on fait une évaluation 6 mois après, nous nous apercevons que les personnes sont autonomes avec la méthode, et que les bienfaits continuent, c'est-à-dire qu'il y a un impact qui dure dans le temps. Alors c'est sûr que pour des raisons sociales, les personnes aiment bien se retrouver en groupe, et que ça serait intéressant peut-être d'avoir des cours plus souvent dans l'année, mais quand même, voilà, nous faisons 2 mois de pratique une fois par semaine, et puis 6 mois après,
quoi,
voilà,
sur deux mois et demi.
Ouais, 2 mois et demi, s'il y a des vacances scolaires, des fois c'est un peu difficile, mais et puis on s'aperçoit que 6 mois après, ben ça fonctionne encore, quoi.
Avec un tout petit appareil oui. Qui ressemble à un petit tambour, hein, qui se branche après l'ordinateur ou qui a même pas besoin d'ordinateur, et dans lequel les sophrologues ont enregistré les séquences d'ateliers. Et ça, c'est un outil formidable quand on se retrouve après les ateliers ou avant la synthèse à 6 mois. C'est là où on voit que le numérique, finalement, il apporte quand même beaucoup de choses aussi. Mais rien ne remplace, à mon avis, le face-à-face du sophrologue et puis des personnes de l'atelier.
Ben, rien ne remplace l'expérience vécue. Je pense que c'est ça. À partir du moment où on a partagé certaines séances, Quand on répète la séance, en tout cas son enregistrement audio, ça remémore des vécus positifs précédemment éprouvés. Et donc, ça renforce encore plus cette action positive qui est un des buts de la sophrologie.
Bah Patrick, je suis très content d'avoir participé, de t'avoir interviewé pendant cette séquence des rendez-vous du Petit Pigeon Voyageur. Je rappelle pour nos auditeurs que vous pouvez trouver toute l'actualité du Petit Pigeon Voyageur sur le site Petit Pigeon Voyageur. Hein. Vous verrez qu'il y a d'autres Petits Pigeons Voyageurs, mais pas qui ont l'objet social d'apporter un soutien moral et psychologique au peuple en détresse. On travaille également vers les écoles. On parlait des jeunes avec la sophrologie. On a déjà fait plusieurs interventions dans des classes... des CM1, CM2, à Villers-les-Moivrons. Tiens, je salue les enfants de Villers-les-Moivrons qui nous ont envoyé des dessins et des messages pour l'Ukraine. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nous sommes aussi l'interface, bien sûr, des ONG qui travaillent sur l'Ukraine, mais également qui travaillent, je dirais, au soutien psychologique de l'Iran. Malheureusement, le Petit Pigeon Voyageur n'est pas au chômage parce que l'homme... malgré ses bons côtés, peut avoir des côtés détestables qui aboutissent sur des guerres. Voilà, bah écoutez, Patrick, je vous remercie à nouveau d'être venu nous voir, d'avoir accepté d'être l'invité du Petit Pigeon Voyageur. Et puis, bonne continuation à tous les ateliers de sophrologie.
Merci,